Rubio a déclaré que les négociations se poursuivraient, mais n'a pas précisé si le prochain cycle inclurait l'Ukraine.
Et voilà, le décor est planté. Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités. Au téléphone avec nous, le politologue américain Simon Serfazzi, professeur émérite à l'université Old Dominion à Norfolk et ancien directeur du programme Europe au Centre d'études stratégiques et internationales de Washington. Via Skype de Yaoundé, docteur Samuel Gembok, enseignant permanent à l'IRIC, à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Il est aussi enseignant associé à l'IRIS, l'Institut français des relations internationales et stratégiques. Et depuis Paris, Patrick Chevalereau, consultant international sur les questions de défense et de sécurité, vice-amiral à la retraite. Il est vice-président de l'Institut Open Diplomacy et chercheur associé à l'IRIS également. Patrick Chevalereau, l'actuelle initiative diplomatique peut-elle aboutir à un accord de paix pour l'Ukraine ?
Alors, bonjour, vous avez raison de qualifier cela d'initiative diplomatique. Il s'agit en rien de négociation, puisque la position américaine, d'emblée, dans ces discussions, épouse quasi fidèlement tout le narratif du Kremlin. La Russie, je le rappelle, étant l'agresseur. Donc, je crois qu'il faut commencer par dire que dans cette discussion, on a un alignement préalable dans Trump sur la position russe. Alors, ça vient d'être rappelé, mais je voudrais insister sur le fait que le président Trump affiche d'emblée que l'Ukraine ne récupérera pas les territoires actuellement occupés, l'Ukraine n'adhérera pas à l'OTAN. Il y a une exigence à peine formulée. L'Ukraine tenir des élections rapidement, et puis le président américain a même rajouté que c'est l'Ukraine qui avait déclenché cette guerre et non pas la Russie, et c'est évidemment une contre-vérité majeure. En fait, il y a également la question essentielle de la présence des Ukrainiens à la table. Aujourd'hui, les Ukrainiens ne sont pas à la table. Moi, ça me fait un peu penser au pourparlers à Munich en 1938, hein, où les Européens se sont entendus avec le chancelier Adolf Hitler pour dépecer la Tchécoslovaquie au profit de ce dernier. Ouais. Et, pas de paix durable, il n'y aura pas de paix durable sans évidemment l'Ukraine à la table, ni même sans les Européens, puisqu'on a là une question de sécurité européenne. Mmh. Situation extrêmement grave. Moi, je vous le dis comme nous le pensons ici, en Europe. C'est une situation qui est extrêmement grave et qui ressemble même un renversement d'alliance.
Ouais. Washington et Moscou ont tout de même dit que Kiev participerait pour parler en temps voulu. Pour ce qui est de l'Union européenne, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a indiqué qu'elle devrait également y prendre part à un moment donné, puisqu'elle a pris de très nombreuses sanctions contre la Russie. Justement, Simon Serfazzi, Sergueï Lavrov a évoqué un vif intérêt pour lever les sanctions qui entravent la coopération économique entre Moscou et Washington. Pensez-vous que ces négociations visent autant la fin du conflit ukrainien que la réintégration de la Russie dans l'économie mondiale ?
Ce sont effectivement les deux priorités, je crois, de l'administration, à savoir entamer les pourparlers sur un cessez-le-feu, non pas une paix, un cessez-le-feu durable entre l'Ukraine et la Russie, et d'autre part, engager la Russie afin de voir dans quelle mesure nous pourrions retourner vers une normalisation éventuelle qui implique les relations économiques, évidemment. Ceci étant dit, à la question pourquoi diable entamer les pourparlers dans un pas de deux tel que s'est produit en Arabie Saoudite, répliquer à cette question en disant simplement non, il ne faut pas le faire, ne me semble pas très constructif. Faire une comparaison avec la situation à Munich en 1938 est absolument hors de propos. Les Français et les Britanniques avaient traité avec Hitler, avant même que tout engagement ait lieu, dans le cadre de l'engagement avec la Russie aujourd'hui, la guerre dure depuis 3 ans. Les pays alliés de l'Ukraine, y compris les États-Unis, ont investi 80 milliards de dollars par an. Les Russes ont eu 600 à 700 000 morts et blessés au moins. Ils ont fait payer un prix à Poutine que les démocraties occidentales n'avaient pas essayé de faire payer durant les 3 années précédentes à Munich en 1938. Donc je crois qu'il y a 3 choses à souligner. Les objectifs de l'administration Trump sont souhaitables. Il faut voir de quelle façon il est possible de les suivre. Ceci étant dit, j'admets et je reconnais que le processus a été détestable et le discours de Trump a été haïssable. Mais cela n'empêche pas qu'il est temps d'en finir avec cette guerre qui menace d'escalader. Ce ne sont pas des concessions que Trump fait prématurément. Au fond, il fait preuve prématurément d'un certain réalisme. Il n'y a aucun intérêt, et ce n'est pas seulement du point de vue des Américains, à faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN. Dans un avenir aussi éloigné, il est concevable, et il est impossible aujourd'hui pour l'Ukraine de résister aux avances russes. Donc la continuation de la guerre est payée un prix aux Ukrainiens aussi bien qu'aux Russes, franchement, pour quelques kilomètres carrés de territoire.
Samuel Gembock, de nombreux pays africains ont adopté une position de non-alignement face au conflit en Ukraine, privilégiant le dialogue et les intérêts économiques. Comment ces pourparlers russo-américains sont-ils perçus en Afrique? Sont-ils vus comme une opportunité pour la stabilité mondiale ou comme une négociation entre puissances qui ne prend pas en compte les préoccupations des pays africains, par exemple?
Je pense que cette situation est diversement appréciée sur le continent. Au niveau gouvernemental, je pense que c'est une initiative qui est saluée parce que les Africains attendent un processus de paix qui soit rigoureusement mis sur pied, et cela permettrait à certains pays africains qui entretiennent des rapports privilégiés avec la Russie et en même temps avec les Américains, de pouvoir rebâtir et de consolider les liens qu'ils ont pu tisser au cours des dernières années. Donc cela est diversement apprécié. D'un autre point de vue, cela mérite d'être observé avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de distance, parce que comme l'ont dit les autres intervenants, il est trop tôt de parler de paix ou de processus de paix. Je pense que l'héritage de la guerre en Syrie pèse encore dans la mémoire de Donald Trump, qui sait très bien que dans son rapport avec Poutine, il n'avait pas joué franc jeu. Et la défaite de Bachar al-Assad est une défaite russe en Syrie. Et donc, s'il y a eu défaite de Bachar al-Assad en Syrie, Trump est certainement en grande partie responsable d'une certaine manière. Et donc, il faut d'abord normaliser les relations entre Donald Trump, les États-Unis et la Russie pour engager le dialogue. Les États-Unis étant un acteur clé dans ce processus, je pense que la stratégie qui est mise en place d'ouvrir pour parler des échanges, de normaliser la relation entre les États-Unis et la Russie est un préalable. Maintenant, pour le processus de paix à proprement parler, il est important que l'Ukraine vienne à la table des négociations et que les acteurs clés européens, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Pologne, etc., puissent y prendre part. Mais ce n'est pas une chose aussi aisée. Le processus sera certainement encore plus long parce qu'il va falloir que les Européens aient une position commune, ce qui est souvent difficile à obtenir quand on sait que certains pays sont plus proches de l'OTAN et d'autres sont plus amenés à la consolidation de la défense européenne. Cela n'est pas déjà très évident. Et donc, Je pense que d'un point de vue du continent, du point de vue de l'Afrique, c'est une situation qui est diversement appréciée et il est trop tôt de parler de processus de paix à proprement parler.
Patrick Chevalereau, Simon Serfati l'évoquait il y a un instant, cesser le feu temporaire pourrait-il être la première étape d'un règlement plus large, ou au contraire donner à la Russie le temps de se réorganiser militairement avant de relancer les hostilités comme certains l'affirment? Brièvement, si vous pouvez.
On passera nécessairement par le processus. Je voudrais dire un mot ce que vient de dire M. Serfati à l'instant. Je respecte absolument sa position, mais c'est un discours de capitulation. Et on sait très bien, nous, les Européens, ce qu'ont comme conséquence les capitulations. En plus, il y a des contre-vérités, comme ça a été dit. L'Ukraine a les moyens de résister, est capable de résister à l'agresseur russe. Et d'ailleurs, elle nous l'a montré pendant 4 ans. Et je ne pense pas que le démarrage de négociations ou de pourparlers maintenant était la bonne chose à faire. Il s'agit en fait, au contraire, d'aider l'Ukraine pour que l'Ukraine soit en meilleure position à la table des négociations. Donc là, on a mis la charrue dans les bœufs, on a un agenda politique de la part de M. Trump. Oui, on va vraisemblablement à un moment donné passer par une phase de cessez-le-feu, mais je ne crois pas dans la paix. Je ne crois pas dans la paix durable. Beaucoup d'Européens ne croient pas en cette paix. Nous connaissons la Russie, nous connaissons M. Poutine, nous connaissons la trace internationale de la Russie dans ses agressions depuis une vingtaine d'années. C'est la nature même du régime russe. Il est beaucoup plus confortable à Washington de manière un peu lointaine. Mais je peux vous dire que pour les Européens, nous sommes terriblement inquiets et à raison.
Simon Serfati, Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, a insisté sur la nécessité d'une fin juste et durable du conflit. Concrètement, que peut signifier une telle formule pour la Russie, l'Ukraine et l'Occident?
C'est une expression, franchement, une phrase de la part du ministre des Affaires étrangères russe qui n'a aucun intérêt. Il ne peut pas y avoir de paix juste entre l'Ukraine et la Russie, parce que la Russie n'est pas disposée à se retirer du cinquième des territoires ukrainiens qu'elle a essentiellement déjà annexée et qu'elle n'est pas disposée du tout à laisser rentrer l'Ukraine dans l'OTAN. Si nous insistons sur ces deux dimensions d'une paix juste, et ce sont des minimums, il faut indiquer également que la Russie devrait payer des réparations à partir des 350 milliards d'acquis qu'elle a dans les banques occidentales. Si on insiste sur ces trois dimensions, en fait, des négociations qui commence à être entamé, alors il n'y aura pas de négociation possible, la guerre continuera. Et la guerre continuera jusqu'à quand et pourquoi et avec qui? Les Européens, déjà, avant même que quelque accord ne soit fait, ont refusé en grande majorité de participer à la protection après-guerre du territoire restant en Ukraine. Les Allemands ont dit c'est trop tôt, les Français ont dit non, l'Italie a dit non, l'Espagne a dit non, pas de garantie. Alors, il faut, je crois, d'un point de vue européen, je comprends la victimisation des Européens, il y a trahison de la part de l'administration Trump dans la façon dont il s'exprime et dont il a entamé ce processus. Mais j'aimerais voir alors les Européens avancer des initiatives concrètes qu'ils peuvent eux-mêmes appliquer.
Oui, et justement, c'est ce que demande le président Trump. Les mots que je citais tout à l'heure, c'était ceux du chef de la diplomatie américaine. Samuel Gembok, la question des territoires occupés par la Russie demeure un point capital. Peut-on imaginer un scénario où l'Ukraine accepterait de céder une partie de son territoire en échange de garanties de sécurité renforcées? En deux mots, si vous pouvez, le temps file malheureusement.
Oui, je trouve que c'est une question extrêmement délicate. Le fait que si ce scénario est probable, il est difficile de l'envisager sérieusement parce que ce serait un signal catastrophe pour les autres pays qui comptent sur leur alliance avec les Américains et l'OTAN vis-à-vis de la Russie. Ce serait vraiment un signal terrible pour les Ukrainiens eux-mêmes qui auront du mal à vivre la stabilité interne comme ils l'ont envisagé depuis leur indépendance.
S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. À la suite de Washington Forum, ce sera après cette courte pause. Merci.
À la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Washington Forum, édition du jeudi 20 février 2025. Gros plan sur la guerre en Ukraine. L'émissaire du président américain Donald Trump pour l'Ukraine est arrivé mercredi à Kiev pour sa première visite depuis sa nomination à ce poste. Nous comprenons la nécessité de garanties de sécurité, a indiqué Keith Kellogg, alors que le locataire de la Maison Blanche et son homologue russe Vladimir Poutine se sont dit en faveur d'une rencontre au sommet pour normaliser leurs relations. D'emblée, quelques commentaires tirés de la page Facebook de VOA Afrique. Pascaline Obégé de Ouagadougou, Burkina, et l'Afrique dans tout ça. Yao Marcelin Kofi d'Abidjan. Le président Trump est à l'épreuve de l'une de ses promesses électorales, notamment celle de mettre fin au conflit russo-ukrainien. Pour ce faire, il serait intéressant d'ouvrir la discussion aux alliés de l'Ukraine afin de faire des propositions concrètes pour sortir de cette guerre aux conséquences désastreuses. La mission du médiateur américain s'avère difficile, mais pas impossible. Et Alphonse Mouaki, Kinshasa, RDC, les alliés de l'Ukraine doivent cesser de soutenir l'armée ukrainienne et la Russie doit arrêter sa politique expansionniste des territoires ex-soviétiques. Sans plus tarder, nous retrouvons nos invités. Simon Serfati, premier titulaire de la chaire Brzezinski sur la sécurité mondiale et la géostratégie au Centre des études stratégiques et internationales de Washington, auteur également de plusieurs ouvrages, dont Un monde nouveau en manque d'Amérique, publié chez Odile Jacob. Depuis Yaoundé, Dr Samuel Gembok, directeur général de Thinking Africa Cameroun. Et Patrick Chevalereau, vice-président de l'Institut Open Diplomacy, chercheur associé à l'IRIS à Paris. Patrick Chevalereau, les Européens déclarent qu'ils seront acteurs et pas spectateurs des pour parler de paix sur l'Ukraine. Comment peuvent-ils parvenir à obtenir leur place à la table des négociations?
Les Européens, si vous voulez, sont effectivement au cœur du sujet, puisque cette affaire est un sujet de sécurité européenne. Les Européens ont des ambitions, mais ne réalisent pas finalement ce qu'il faut pour atteindre ces ambitions. L'Europe est une puissance politique, l'Europe est une puissance économique, mais l'Europe n'est pas encore une puissance militaire. Disons que c'est une parcellisation d'un certain nombre de pays qui ont des capacités militaires. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui et ce qui aurait dû se passer auparavant, hein, puisque on arrive vraiment à une situation critique, c'est un wake-up call, c'est-à-dire c'est un rêve. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en cours. Il a été souligné dans la première partie de l'émission que un certain nombre de réactions de pays européens montraient qu'il n'y avait pas une parfaite homogénéité dans le paysage politique européen, s'agissant de ce qu'il convenait de faire. Mais je crois que l'Europe, petit à petit, et maintenant il vaudrait mieux rapidement que lentement, est en train de réaliser que si elle veut simplement survivre, parce que c'est une question existentielle, ça n'est pas une question de victimisation comme je l'ai vu tout à l'heure, ce sont l'avenir des générations qui est concerné directement, l'Europe doit s'organiser militairement, l'Europe doit faire des choix, doit faire des sacrifices, ses citoyens doivent être sensibilisés à ces choix difficiles qui devront être faits. Des choix budgétaires et l'Europe a un peu de temps pour réagir puisque moi je considère si vous voulez que le lien transatlantique est profondément abîmé parce qu'il vient de se passer lors des dernières semaines et si on veut le reconstruire un jour ça ne passera que par une Europe qui a réalisé pesé en tant que hard power et non plus seulement en tant que soft power.
Oui. Simon Serfati, au-delà de ces négociations, peut-on parler d'un véritable tournant vers la paix ou sommes-nous simplement face à une nouvelle manœuvre diplomatique dans un conflit qui pourrait encore durer des années? En deux mots, si vous pouvez.
Non, le conflit ne durera pas plusieurs années. Ce conflit aura un cessez-le-feu, il y aura cessez-le-feu cette année en 2025. Je suis certain de cet objectif qui sera réalisé parce que la guerre ne peut pas se poursuivre sans une participation importante des États-Unis que Trump n'accordera pas. Ceci étant dit en une phrase, l'amiral a tout à fait raison. L'Europe s'est beaucoup développée comme la contrepartie des États-Unis en Ukraine ces dernières années. Elle a l'opportunité, l'Europe, de s'affirmer dans les années à venir et entre-temps de participer à la négociation au travers des dossiers que les États-Unis ne pourront pas aborder seuls. Par exemple, les garanties de sécurité, par exemple, la levée des sanctions, par exemple, la reconstruction et les réparations pour l'Ukraine. Tout cela peut se faire dans un contexte où la guerre cesse et le cessez-le-feu cesse, mais la paix durable. Il y a une longue ligne droite avant le tournant que vous évoquiez.
Oui. La guerre en Ukraine a eu un impact direct sur l'Afrique, notamment en matière de sécurité alimentaire, avec la flambée des prix des céréales et des engrais. Samuel Gembok, malheureusement, le temps file, comme je le disais, la reprise du dialogue entre Washington et Moscou pourra-t-il permettre de résoudre ces défis économiques pour l'Afrique ou le continent reste-t-il un spectateur lointain de décisions prises ailleurs?
Oui, c'est clair que l'Afrique n'a pas le poids stratégique nécessaire pour peser dans les négociations en cours, mais un processus de paix qui serait inclusif faciliterait la tâche aux Africains qui ont subi les conséquences de cette guerre, notamment sur le plan alimentaire, comme vous l'avez si bien évoqué. Donc, s'il y a un processus de paix inclusif qui pourrait déboucher sur une ligne construite sur la base d'un consensus entre les parties prenantes, c'est une bonne nouvelle pour les Africains.
Voilà, bonne nouvelle. Point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos trois invités. Samuel Gembok, qui a participé à l'émission aujourd'hui malgré une petite inspection de voix. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup également à Simon Serfati, Patrick Chevalereau. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à toutes nos radios et télépartenaires. Et bien évidemment, un grand merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine. Nouveau rendez-vous dès jeudi prochain. Jacques Aristide, ici à Washington. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. Merci.